Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Écho d'ici, écho d'ailleurs vous plonge chaque semaine dans le monde fascinant de l'économie à l'échelle mondiale, des hommes et des femmes qui créent de l'activité et qui pour cela ont besoin de tisser des liens avec l'extérieur, des liens commerciaux et des liens d'investissement à l'échelle nationale et internationale. Comment nouer des partenariats à la fois équitables, durables et sources de revenus, y compris pour les moins favorisés, les petites mains de l'économie, comme on les appelle parfois un peu rapidement. C'est l'un des enjeux de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, deux continents à l'histoire commune et qui cultivent, malgré des critiques, cette connexion dont nous parlons si souvent ici. Illustration immédiate, un forum UE-RDC à Paris, à l'occasion de la visite officielle en France du président congolais Félix Tshisekedi, un an après la visite à Kinshasa de son homologue Emmanuel Macron. Quel bilan des partenariats engagés? Quels nouveaux investissements sont possibles? Notre invité, dans un instant, le directeur général de l'Agence congolaise de promotion des investissements, l'ANAPI, Anthony Kinzo, qui nous dira ce que son immense pays de 100 millions d'habitants prévoit pour assurer son développement. Climat des affaires, corruption, sécurité, fiscalité, énergie, mines, agriculture, décentralisation, les sujets sont nombreux et passionnants. L'Europe et l'Afrique, l'Afrique et l'Europe, une relation essentielle pour un produit agricole en particulier, le cacao, au cœur de tant de débats sur le respect de l'environnement, la préservation des forêts, mais aussi les revenus des producteurs, notamment en Côte d'Ivoire, le numéro 1 sur ce marché. Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café Cacao, nous dira sa position tout à l'heure. Il participait à la conférence mondiale sur le cacao à Bruxelles, à ne pas manquer non plus. D'abord donc, la RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
La République démocratique du Congo, à la une donc des codici et codailleurs, ce pays qui dispose d'énormes ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles, qui ne demandent qu'à être exploitées. Encore faut-il que cela se fasse dans le respect de l'environnement et au bénéfice de l'ensemble de la population. Pour évoquer tous les investissements, en cours ou à venir, une personnalité au cœur de ces enjeux avec nous en studio. Bonjour Anthony Kinzo.
Bonjour Bruno.
Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, l'ANAPI, et par ailleurs le président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Nous pourrons en dire tout à l'heure quelques mots. L'état de la francophonie économique dans cette Afrique où les anglophones ont tout de même souvent le leadership, comme ils le disent si bien. Quelques mots très rapides de votre parcours. Anthony Kinzo, des études à Kinshasa et Bukavu, une carrière dans le privé, dans les domaines du juridique, et du fiscal, dans les ressources humaines, avant d'évoluer au ministère du budget, puis donc à l'ANAPI. Et je précise que vous parlez quatre langues, ce qui est bien utile, le français, l'anglais, le swahili et le lingala. Une première question de Julien Clémenceau, chef du service économie de RFI.
Anthony Kinzo, la RDC a reconduit fin 2023 Félix Tshisekedi pour un nouveau mandat de 5 ans. On va l'entendre dans quelques instants. Certains dans le pays espéraient un changement, notamment, disait-il, pour stimuler la croissance économique. Est-ce que vous diriez que le pays est aujourd'hui plus ouvert aux investissements qu'il ne l'était en 2019?
Je dirais que le pays est beaucoup plus engagé. Lorsque nous regardons les 5 ans qui viennent de passer, c'était ce qu'on appelle une sorte de fondation par rapport à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette fondation nécessitait qu'on puisse avoir une ouverture. Il y avait une agressivité dans la diplomatie économique. Et vous avez vu le Président de la République faire tous ses pas, faire tous ces échanges, faire tous ces voyages, simplement pour montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo était un pays totalement ouvert. Et aujourd'hui, nous avons eu un balai diplomatique en retour. Au-delà du balai diplomatique, nous avons quand même eu des opérateurs économiques qui sont arrivés. On a eu aujourd'hui une ouverture avec DP World, avec le port en eau profonde qui est en train d'être construit. Nous avons eu les deux tours du centre financier par les Turcs. Nous avons eu un forum avec les Tunisiens. Nous avons eu la France qui est revenue avec Proparco et AFD. Nous avons eu un certain nombre d'opérateurs économiques qui sont revenus.
On va parler des relations entre la RDC et la France.
On est en train de remonter.
Le climat des affaires, vous diriez qu'il a encore besoin d'évoluer dans votre pays. Est-ce qu'il faut améliorer la gouvernance dans le monde des affaires?
Deux éléments différents quand vous parlez du climat des affaires et de gouvernance. Vous savez, dans tous les pays, la question du climat des affaires nécessite une évolution permanente. On ne peut pas dire qu'en une année, en cinq ans ou en six ans, le président de la République hérite d'un pays qui a pratiquement plus de 30 ans où il y a une gangrène dans la corruption, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en place. Mais il a une volonté de dire, je voudrais que le climat des affaires puisse être mis en place. En 2019, il dit, il faudrait que nous puissions avoir une fiscalité de développement en faveur du secteur privé. Premièrement, il place une cellule du climat des affaires dans son cabinet, où il pilote lui-même. Deuxièmement, nous avons quand même les feuilles de route du climat des affaires qui sont validées au niveau du gouvernement. Observez bien notre pays, ça ne s'est jamais fait et ça s'est fait deux fois. Troisièmement, nous avons les assignations où le Premier ministre est en train de suivre les différents chefs de département ministériel en disant dans les deux mois, dans les quatre mois,
il y a
dans
quand
les
même
six
beaucoup
mois.
De sujets de corruption qui ressortent en RDC et de difficultés autour de cette question. Est-ce que ça, vous le reconnaissez facilement?
La question que je pose toujours, qui est le plus responsable entre un corrupteur et un corrompu? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de
les
corruption...
Les deux, je dirais.
Mais alors, qui est corrompu et qui est corrupteur? Parce qu'en fait, lorsqu'on évoque la question de la corruption, on est en train de dire qu'il y a simplement la RDC, mais derrière, il y a quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est le seul pays où il y a la corruption? Vous allez me dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut répondre. L'autre question, c'est de vous dire, aujourd'hui, nous avons un engagement par rapport à cette question de corruption. Il y a une agence de prévention et de lutte contre la corruption. Il y a aujourd'hui une renaissance, je vais dire une renaissance parce que ça existait avant, le CNAREF, la cellule nationale sur la question de blanchiment d'argent. Il y a aujourd'hui un engagement réel du pays dans différents services sur la lutte contre la corruption. Ça ne s'arrête pas en un jour. Dans différents pays, il y a des rapports au niveau des pays occidentaux où on est en train de voir des questions de corruption. Je ne vais pas les citer ici pour essayer de faire un parallélisme. On a trouvé dernièrement dans un des pays ici où il y avait une somme d'argent dans la maison d'un maire. Pourquoi on fait un focus sur la question de corruption dans des pays africains et non dans des pays occidentaux? Mais ce qui est sûr...
C'était aussi une question dans les pays occidentaux, évidemment.
Écoutez, est-ce que c'est posé avec cette acuité quand il s'agit des pays africains? Je ne pense pas, mais c'est une lutte permanente. Et aujourd'hui, nous avons évolué même avec des numéros verts au niveau de la fiscalité, au niveau de la justice. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a un éveil de conscience sur cette question de lutte contre la corruption.
Quand on parle du climat des affaires, quand on veut attirer des investisseurs, il faut de la sécurité. À propos de la RDC, on parle beaucoup en ce moment des conflits armés à l'est du pays. Est-ce que ça donne la meilleure image possible pour les investisseurs?
C'est véritablement déplorable lorsque on parle de la RDC sur ça. On est en train de vivre aujourd'hui 30 ans d'une insécurité par rapport à l'est du pays. Et aujourd'hui, j'apprécie énormément le travail qui est fait par le ministre de la Communication et même par le pays pour essayer de dénoncer ça. Oui, c'est une question qui mérite et qui nécessite qu'on puisse adresser cela. Un opérateur économique qui entend parler de la RDC et qui dit qu'il y a un problème de sécurité politique, de sécurité, même physique au niveau de l'est du pays, il se dit, devrais-je venir? Mais ça se passe où? Ça se passe à 2000 kilomètres de Kinshasa. Ça se passe dans un pays où il y a aussi des investissements hôteliers. Nous avons Serena là-bas. Ça se passe dans un coin de la République où nous, au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous avons agréé des projets dans le secteur aérien, dans le secteur des infrastructures.
Mais quand même, ça handicape ce développement.
Ça devrait handicaper le développement, mais c'est pour vous montrer combien il y a cette volonté affichée des opérateurs économiques en disant « nous ne pouvons pas laisser cette partie de la République ». Ça se passe là où il y a des petites et moyennes entreprises qui ont une évolution réelle.
Vous nous dites « il y a du dynamisme dans cette région ».
Il y a de l'investissement aussi.
Et de l'investissement en dépit.
Oui, il y a de l'investissement.
On va y revenir.
Une question sur la fiscalité, Julien Clémenceau.
Oui, parmi les sujets sensibles pour les hommes d'affaires, il y a donc la fiscalité. La Fédération des entreprises du Congo déplorait fin 2023 qu'il y ait de trop nombreux contrôles. Ils ont beaucoup augmenté par rapport à 2022. Est-ce qu'il y a la volonté de mettre la pression sur le secteur privé? Est-ce qu'il y a trop de fraudes?
Est-ce qu'on peut dire qu'il doit y avoir une volonté de mettre la pression sur le secteur privé? Ce serait un mauvais message d'ailleurs de dire qu'un État voudrait mettre de la pression sur le secteur privé. On ne peut pas mettre une pression sur le secteur qui alimente le budget. Ça, je suis moi-même un ancien de la Direction générale des impôts. J'y ai travaillé pendant 4 ans et demi. Et j'ai toujours entendu ça de la Fédération des entreprises du Congo. Ce que nous devons savoir, c'est que depuis aujourd'hui un peu plus de 10 ans, l'État congolais est en train de faire un effort d'assainissement, non seulement des questions parafiscales et des questions fiscales, la suppression de certaines taxes. Je reviens sur la question des contrôles fiscaux. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il devrait y avoir ce qu'on appelle une sorte de cohésion, de cohérence et même d'alignement de certains contrôles fiscaux. Mais ces contrôles sont légaux pour la plupart d'entre eux. S'il y a des contrôles qui sont illégaux, il faut les dénoncer. La troisième chose ou la quatrième chose, c'est aujourd'hui, lorsque vous regardez la Fédération des entreprises du Congo, que je respecte énormément d'ailleurs, le président qui vient d'être élu à cet engagement-là. Mais il n'y a pas que des bons dans la Fédération des entreprises du Congo. Ça, c'est un élément qu'il faudrait savoir. J'ai été vérificateur des impôts, j'ai travaillé chez PricewaterhouseCoopers, donc je connais la comptabilité d'un point de vue Direction générale des impôts, je connais la comptabilité d'un point de vue PricewaterhouseCoopers. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a des personnes qui ne respectent pas les règles dans ces entreprises ?
Vous savez, c'est un game. Et je suis prêt à parier devant les opérateurs économiques en disant si on devrait se regarder en face, quel est le jeu qui se passe. Et ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons quelques opérateurs économiques qui ont des comptabilités qui sont différentes de celles qui devraient être. Je le dis et ils le savent.
Est-ce que cette question de la fiscalité, elle vous est posée par les investisseurs étrangers ?
Tous les jours que je rencontre un opérateur économique, il me dit, est-ce qu'il y a une transparence sur les lois fiscales, sur les lois parafiscales ? Est-ce qu'il devrait y avoir moins de complexité sur les questions fiscales et parafiscales ? Je leur dis, il existe des lois. Ce que je demande aux opérateurs économiques étrangers quand ils viennent en RDC, c'est de faire une due diligence, de voir les cabinets, de leur dire quels sont les impôts et les taxes auxquels vous devrez être assujettis pour l'activité dans laquelle vous voulez exercer. Vous savez, on donne de l'information à une date donnée et la loi, elle est évolutive. Il peut y avoir une loi, il peut y avoir un décret, il peut y avoir un arrêté complémentaire et ça se met en place. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une volonté d'assainir.
Le souci, c'est de ne pas avoir de loi rétroactive. C'est ça que ne veulent pas les investisseurs parce qu'ils s'engagent sur des plans d'investissement.
Le souci, c'est aussi d'avoir une stabilité des lois auxquelles ils sont soumises. Mais lorsque vous fautez, la loi de la RDC sur certaines lois permet et prévoit la rétroactivité lorsque vous avez obtenu certaines exonérations. Je parle du code des investissements. Et à ce moment-là, vous n'avez pas beaucoup de choix que de pouvoir vivre et de pouvoir accepter la sévérité de la loi.
Antonine Kinzo, toutes ces questions économiques, le président Tshisekedi les a évoquées lors de son discours d'investiture au début de l'année 2024, au-delà des questions sécuritaires. Hein, on va écouter quelques mots de ce discours.
J'ai conscience de vos attentes relative à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité.
La création d'une industrie, la réduction de la dépendance aux importations, voilà qui demande des investissements. Antonine Kinzo, le président Tshisekedi est de retour d'ailleurs en France pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron qui était lui-même à Kinshasa. C'était au printemps 2023. Pourquoi cette visite en France du président congolais ? Est-ce que les relations économiques s'améliorent définitivement entre les deux pays ?
Je devrais dire qu'il y a une évolution dans les relations économiques entre la RDC et la France. Je vais vous donner quelques chiffres. 46 projets agréés au cours des investissements entre 2003 et 2022. 806 millions représentent les 46 projets. Je parle de 20 ans. Mais c'est 20 ans. C'est uniquement 20 ans. Et 20 ans, c'est énorme par rapport à ce qui existe. Et aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a une volonté de la France au travers de Proparco avec 500 millions qui devraient normalement être générés et injectés en RDC entre 2021 et 2025. Ça, j'appelle ça une évolution. Et aujourd'hui, je suis en train de noter que il ne vient pas seulement ici en France, quand je parle de l'île, c'est mon président de la République, le chef de l'État, en disant que nous sommes simplement en train de vous rendre l'appareil. Vous êtes venu en RDC lors de ce forum où il fallait travailler sur les questions des minéraux critiques, sur les questions des villes durables, un certain nombre d'éléments. C'est cette élégance qui fait en sorte que le président revient, mais aussi pour dire que nous avons besoin que les opérateurs économiques français puissent investir avec des opérateurs économiques congolais dans une optique de partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'était un sens et ce serait le sens de son déplacement ici en France.
La conférence de presse l'année dernière, elle avait été un peu tendue. Hein. Il y avait eu des accusations de paternalisme. Tout ça, c'est enterré ?
C'était une conférence de presse avec beaucoup d'engagement.
À Kinshasa, on a entendu ces derniers mois quand même une rhétorique anti-occidentale, y compris par des gens qui se revendiquent proches du pouvoir congolais. Est-ce que ça, c'est surprenant ou est-ce que c'est normal ?
Pourquoi dit-on qu'il y a une rhétorique anti-occidentale ? Je pense qu'il faudrait observer aujourd'hui le paysage politique de notre pays et observer aujourd'hui les positions de certaines nations étrangères. Il y a un éveil de conscience en Afrique qui ne permet plus que certains sujets restent inaperçus ou que les uns et les autres ne s'expriment pas. Je ne pense pas que c'est des positions anti-occidentales. C'est des positions qui permettent à ce que les pays africains, notamment la RDC, puissent se prendre en charge. Un éveil de conscience existe. Je ne crois pas que ça doit être anti-occidental. C'est un éveil de conscience.
Et ça ne vise pas non plus des entreprises étrangères, européennes, françaises.
Mais sinon, on n'aurait pas le groupe Accor qui vient de s'installer. Sinon, on n'aurait pas Novotel qui s'est installé. Sinon, on n'aurait pas Pullman qui est là. Sinon, on n'aurait pas le groupe Bolloré qui est là.
Justement, que représentent les investissements européens ? Vous nous parliez des investissements français, mais les investissements européens en RDC ?
Allez, le chiffre est quand même assez faible. Je ne vous donnerai pas des chiffres ici au regard de me méprendre. Mais nous pensons qu'il y a un effort qui devrait être fait.
Vous avez très récemment rencontré des responsables chinois, dont le conseiller économique de l'ambassade de Chine en RDC. Est-ce que quelque chose se prépare entre la RDC et la Chine ?
Je pense qu'aujourd'hui, la Chine a besoin de pouvoir présenter l'importance de l'investissement qu'il y a dans notre pays. Mais je pense aussi que la Chine a besoin de pouvoir présenter au peuple congolais sa volonté d'améliorer les conditions sociales des opérateurs
économiques.
Mais
est-ce qu'il y a des projets nouveaux ?
Je vais revenir là-dessus. Et les véritables projets, c'est de pouvoir amener des opérateurs économiques encore un peu plus dans différents autres secteurs. Aujourd'hui, nous avons quand même un peu plus de 2 milliards qui ont été injectés depuis 2009 par les Chinois. Ce n'est pas peu. Donc, quelque chose se prépare entre nous et l'ambassade de Chine. Nous allons bientôt l'annoncer dans les jours et dans les peut-être les mois à venir.
Au-delà des investisseurs chinois, européens, il y a aussi les investisseurs africains. Vous étiez au Maroc il n'y a pas très longtemps. Quelle part la RDC entend donner à ses investisseurs africains ?
Mais écoutez, nous avons déjà, au mois de mai, il y a un forum économique qui va s'organiser avec les opérateurs économiques marocains qui sont en train d'arriver. Il y a
Dans quel secteur ?
Dans plusieurs secteurs. Il y a le secteur de la santé, il y a le secteur de l'agriculture, il y a le secteur des nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, le tourisme est en train d'avancer.
La banque, c'est une possibilité ?
Mais nous avons déjà BOA qui est là, qui est une des filiales de la Banque marocaine d'investissement. Ça, c'est un élément important là-dessus. Mais nous avons un élément aussi que vous devez noter, c'est qu'il y a OCP qui est déjà engagé avec la RDC, l'Office chéricain du phosphate, qui est en train de travailler
avec... Ce sont les engrais marocains,
les engrais sociétés marocaines. Qui sont en train de travailler avec la Gécamine, qui vont travailler avec la province du Congo central sur le développement du phosphate. Et c'est un élément important dans le cheminement de la valorisation des ressources naturelles.
Vous avez parlé tout à l'heure de DP World. Est-ce que la RDC est tournée aussi vers Dubaï, les Émirats arabes unis, le Golfe, comme d'autres pays africains le sont en ce moment ?
Le président de la République dit toujours que le pays est ouvert. Il y a un multilatéralisme économique qui existe. Ce n'est pas seulement Dubaï, ce n'est pas seulement le Qatar. Nous allons avoir aussi d'autres opérateurs économiques dans d'autres secteurs et d'autres nationalités qui vont venir. Mais nous allons avoir beaucoup de choses. Lorsque vous avez Dubaï Port Road qui est en train de se mettre en place, c'est un écosystème qui se met. Quand il y a un port qui se développe, ça veut dire qu'il y a des structures hôtelières qui se mettent en place. C'est une opportunité et une niche pour les opérateurs économiques français, belges, italiens, espagnols. Donc nous pensons que cela va s'ouvrir.
Parmi vos missions, vous avez aussi la révision du code des investissements.
Tout à fait.
Pour quel résultat concret ?
Vous savez, lorsque vous avez un code qui existe, ça fait 20 ans, il faut vous remettre en question. L'évaluation est extrêmement importante. En 2002, lorsqu'on est en train de placer le code des investissements, l'environnement économique n'est pas le même qu'en 2024. En 2002, 2003, 2004, nous venons d'une hyperinflation qui a été à plus de 1000%. Lorsque nous arrivons aujourd'hui en 2024, nous avons l'ASLECAF qui est ouverte, nous avons l'East African Community qui est là, nous avons une évolution avec un taux de change aujourd'hui qui bat, nous avons une inflation qui a baissé. Nous avons une ouverture des pays. Il est important de pouvoir revoir le code des investissements et aussi de pouvoir répondre aux gros investissements qui sont en train d'arriver dans le pays. On ne peut pas rester au même niveau qu'il y avait en 2002. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de le mettre en place. Ensuite, en 2002, nous avons 11 provinces. En 2024, nous avons 26 provinces. Ensuite, en 2002, il y a l'impôt sur le chiffre d'affaires. Mmh. En 2024, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Mmh. En 2002, nous n'avons pas le même engagement avec les achats locaux qu'il y a en 2024. Et aujourd'hui, avec cette évolution, il y a une place de choix qui est réservée aux PME locales.
Mais quels sont aujourd'hui les exemples de grandes entreprises congolaises qui ont réussi, peut-être en dehors du secteur minier?
Moi, je suis un féru de petites choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, ça a été considéré comme étant banal d'avoir une PME qui produit des cure-dents. C'est une jeune dame. Mais c'est à la faveur de l'éclosion d'un écosystème légal. Aujourd'hui, nous avons une Congolaise qui est là. Ça a été aujourd'hui, lorsque je regarde certaines entreprises congolaises qui sont en train de travailler dans le secteur de l'agro-industrie. Quand je regarde des entreprises que nous avons agréées, qui travaillent dans des carrières qui ne sont pas simplement dans les miniers. Je ne vais pas les citer ici pour faire de la publicité, mais nous avons des exemples. Je les ai visités. Quand je regarde aujourd'hui le secteur hôtelier à Goma, nous avons un complexe hôtelier qui appartient à un Congolais. Quand je regarde aujourd'hui certains bâtiments, des chaînes des bâtiments dans le secteur de l'immobilier qui appartient à des Congolais, ça c'est de l'éclosion pour le secteur congolais.
La RDC n'est pas celle qu'elle était il y a 20 ans et elle est certainement très différente de ce qu'elle sera dans 20 ans. Antonin Kinzo, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC, est notre invité. Nous allons parler plus précisément des secteurs stratégiques de l'économie congolaise.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Sur RFI.
L'un des principaux secteurs qui mobilise les investisseurs étrangers, ce sont les mines. Une question de Julien Clémenceau.
Début mars, la RDC a renégocié le contrat dit du siècle, le contrat signé avec la Chine, pour obtenir plus d'investissements dans les infrastructures en échange de ces minerais. Que répondez-vous à ceux qui disent que la concession faite par la Chine est encore trop faible, que les investissements chinois dans les infrastructures seront pas assez importants?
Il est important de noter que nous avons quand même fait un pas d'aller vers l'évaluation de ce contrat. Et ça, c'est un élément qui est utile à garder et à mentionner.
Donc ça, c'est l'inspection générale des finances, au départ, qui fait cette évaluation du
contrat.
C'est
la volonté d'abord du chef de l'État. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. C'est la volonté d'abord, en disant, est-ce que nous ne devrions pas avoir un peu plus? Et nous sommes arrivés à ce résultat-là. Ceux qui sont en train de penser que c'est encore faible, je leur dis qu'il est prévu aussi des mécanismes d'évaluation. Et certainement que des nouvelles peuvent être données dans les années à venir.
Les revenus des mines, est-ce qu'ils bénéficient aujourd'hui suffisamment aux Congolais et aux Congolaises, notamment dans les régions concernées?
Définitivement pas, mais c'est mieux qu'il y a quelques années. C'est mieux qu'il y a quelques années.
Est-ce qu'on peut dire que la GKMine a échoué dans cette mission qui lui était donnée de défendre les intérêts congolais?
Je ne dis pas que la GKMine a échoué. Il y a eu ce qu'on appelle une sorte d'héritage d'un système. Il y a eu probablement une décadence par rapport à une question de gouvernance. Et aujourd'hui, c'est en train de se remettre en place.
La RDC exporte beaucoup de ses minerais bruts. Est-ce qu'on pourrait imaginer que davantage de minerais soient transformés localement dans le pays?
La RDC exportée, il est important de le dire à l'imparfait, parce que la stratégie du président de la République, c'est de pouvoir valoriser, c'est de créer de la chaîne de valeur pour faire en sorte que nous puissions avoir un peu plus de revenus en RDC. On ne va plus aller sur de l'exportation.
Mais sur ce plan-là, on en est où alors? Plan de la transformation.
Mais on est déjà en train de travailler sur ça. Lorsque vous regardez la production de l'or qui est en train de se faire par rapport à une des structures, aujourd'hui, sur la question de la sous-traitance, il y a plusieurs entreprises qui entrent pour dire nous voulons transformer, nous ne voulons plus aller sur la question de l'exportation simplement. Lorsque vous regardez le cobalt, lorsque vous regardez le cuivre, lorsque vous regardez l'étain, lorsque vous regardez
le fer. Pour l'instant, on entend parler de projets de raffinerie.
C'est plus simplement des projets, parce que les raffineries sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, nous avons agréé des raffineries qui sont en train de produire de l'or. Je parle des choses qui sont réelles.
Il y a aussi le corridor de Lobito qui amène vers le port angolais de Lobito. Ça, c'est important pour le pays, ce projet? Financé par les Américains.
C'est un projet qui va d'ailleurs bénéficier à l'Union européenne. Et ça, vous le savez énormément. Un projet qui va bénéficier aujourd'hui à l'espace Schengen. Oui, En fait, nous ne pouvons plus aujourd'hui considérer que nous sommes dans un pays où on va se suffire à soi-même. Nous devons être ouverts à d'autres pays. Et la création de ce corridor fait en sorte que nous puissions avoir une interconnexion avec d'autres pays. De voies de transport pour les questions agricoles, des voies de transport pour les questions minières, des voies de transport pour les questions touristiques et des échanges entre des populations et des nations.
Vous avez parlé du cuivre, du cobalt,
oui.
Le secteur artisanal dans les mines. Est-ce qu'il faut favoriser son développement alors que les ONG critiquent souvent le travail des mineurs avec des questions de droits de l'homme et des questions d'environnement aussi très importantes.
Le président de la République et le pays sont engagés sur l'interdiction de l'utilisation des enfants dans les secteurs miniers. Mais vous savez, chacun est dans son rôle aujourd'hui, en disant il y a encore des enfants dans les mines, il y a encore des enfants, et nous sommes en train de nous battre là-dessus. Est-ce que vous savez que nous avons eu une cote de 85,5% sur le rapport ITE ? Et parmi les différents indicateurs qui ont été présentés et qui sont présentés, c'est aussi la lutte aujourd'hui du fait qu'il ne devrait pas y avoir des enfants dans les mines. Si on arrive à atteindre ce score de 85%, ça veut dire que la RDC a fait des efforts dans ces différents indicateurs.
Ce secteur minier très présent dans l'est du pays où, on l'a dit, les populations congolaises sont victimes des combats entre les forces congolaises et les groupes armés avec des conséquences en termes de sécurité, en termes de migration aussi et un obstacle à la diversification économique de ces régions. Qu'est-ce que vous faites pour cela ?
Déjà, nous, au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ce que nous faisons, c'est de pouvoir être beaucoup plus flexibles sur les avantages qui sont donnés aux entreprises qui sont agréées dans ce secteur. Lorsqu'une entreprise qui est installée dans ce secteur nous saisit pour avoir ce qu'on appelle une modification de planning ou une prolongation d'un certain nombre de délais, nous considérons ça comme étant un élément de force majeure par rapport à nous, Agence nationale. Et nous l'avons fait dans le cadre de l'agrément du code des entreprises au code des investissements. Ensuite, au niveau du pays, c'est une question qui est placée au plus haut niveau pour voir comment on accompagnerait les différentes entreprises. Au niveau de l'agence, nous sommes en train de travailler sur une note qui devrait normalement solliciter du gouvernement qu'il puisse avoir un allègement de taxes là-dessus, parce que lorsque on se retrouve dans un état de siège, on se retrouve dans une position où les entreprises ne fonctionnent pas de manière optimale. Et ça, nous allons l'obtenir. Et c'est tout à fait de bon aloi que de faire en sorte que les PME qui s'y retrouvent, les grandes entreprises qui s'y installent, puissent avoir un accompagnement particulier de l'État.
Le désenclavement de certaines régions de RDC, faire participer les 26 provinces du pays à l'économie, c'est une question qu'a aussi évoqué le président Tshisekedi lors de son discours d'investiture. On l'écoute à nouveau.
À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet Sicomine et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes. Trois défis qui constitueront les trois initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat.
Les chaînes de valeur agricoles, l'assainissement des villes, le désenclavement de l'ensemble de la RDC, une question de Julien Clémenceau.
Désenclaver les provinces, c'est débloquer leur potentiel agricole. Est-ce que la RDC doit chercher à produire pour son propre marché ou développer des cultures de rente ?
Les deux éléments ne devraient pas être exclus l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de désenclavement, on est en train de parler, nous, de l'interconnexion des différentes provinces. Le projet de développement local de 145 territoires est un projet qui permet à ce que les différentes provinces puissent être interconnectées. Et ça, c'est une avancée et c'est une innovation, une initiative que nous louons. Et derrière ça, la question de la production agricole, nous avons 100 millions d'habitants dans notre pays, 100 millions. Si vous êtes simplement en train de produire de la tomate au niveau de la RDC, vous avez un marché de 100 millions si on doit produire la tomate à 1 euro, vous avez 100 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires journalier. Si c'est 50 millions simplement, c'est 50 millions de chiffre d'affaires journalier. Et aujourd'hui, la stratégie du développement agricole se passe au niveau de l'autosuffisance alimentaire pour que nous puissions avoir au niveau de certaines provinces, des provinces qui se suffisent à elles-mêmes, qui puissent arriver à avoir un impact sur les populations. Mais en même temps, la question du désenclavement, elle est stratégique. Elle est stratégique non seulement sur la question agricole, mais aussi sur la question de l'interconnectivité avec d'autres secteurs. Je parle du transport, je parle de l'aérien.
Mais dans le secteur agricole, aujourd'hui, qui sont les investisseurs ?
Les locaux comme les étrangers. Aujourd'hui, nous devons nous le dire, nous avons besoin de l'expertise qui vient de l'étranger pour la question des semences, sur la question des intrants, sur la question de la formation des ressources humaines.
Donc vous parliez de l'OCP sur les engrais.
Nous avons fait une visite, une mission économique au Brésil, parce que le Brésil aujourd'hui est un exemple de réussite sur la question agricole. Et on a aussi certains autres pays africains, la Côte d'Ivoire, qui a réussi avec le programme des anacardes. Donc nous ne fermons pas la porte à cela.
Fluidifier la circulation dans les villes, en particulier Kinshasa, parce que c'est un objectif aussi à court terme.
Il le faut.
Parce qu'il y a un gain économique aussi, hein, quand on arrive à éviter des embouteillages monstres.
Vous savez, lorsque nous avons une ville qui est en constante évolution, qui est liée à sa démographie, il y a des anticipations qu'il faut avoir. Et parfois, on est peut-être pris de court sur ces questions-là. Oui, il le faut. Oui.
Abidjan a construit un nouveau pont, par exemple.
Écoutez, nous avons des véritables projets sur le développement de la ville de Kinshasa, au-delà de l'aéroport. Et ça, c'est une stratégie qui existe. Et ces projets existent. Et de plus en plus, on est en train de le mettre en place.
Bruno parle de pont. Et on ne peut pas passer à côté du pont qui peut relier Kinshasa à Brazzaville. Ça paraît tellement évident. Les deux capitales les plus proches au monde.
Il y a une protection véritablement de la production locale qui devrait être un préalable à ce pont-là.
D'accord.
Et au niveau du Congo central. Et c'est une volonté qui est affichée au niveau de la RDC. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas ce pont. Nous sommes simplement en train de dire que le préalable, c'est la protection de la production locale.
Donc ce n'est pas pour tout de suite.
Ce n'est pas pour tout de suite. C'est un projet qui existe.
Alors, il y a les transports et puis il y a la question de l'énergie, hein, et du prix de l'énergie. Il y a les fameux nouveaux barrages à Inga et puis la remise aussi en état des ouvrages existants, le renforcement du secteur électrique. Où en est le gouvernement sur ces points cruciaux pour la population ?
Lorsque je parle du potentiel énergétique de notre pays, bien sûr que je mentionne Inga, mais la plupart des opérateurs économiques ne se rendent pas compte que notre pays est parcouru par tout un cours d'eau. Et c'est-à-dire que par le fait qu'on est parcouru par un cours d'eau, il y a des projets, des micro-barrages qui existent du sud au nord, en passant par l'est et en débouchant à l'ouest. Ça, c'est des éléments qui sont importants à mentionner.
Mais vous nous dites, Inga, c'est trop gros. Et en fait, se focaliser sur Inga, c'est rester bloqué sur un projet qui a du mal à évoluer. Même Inga 1 et Inga 2 ne fonctionnent pas à 100%.
Je ne dis pas que Inga, c'est trop gros. Je dis que la RDC, c'est 100 000 mégawatts, dont Inga, c'est 44 000 mégawatts. C'est un élément que nous devons avoir lorsqu'on parle de la RDC. Les 56 000 autres mégawatts, c'est dans les autres projets. Et c'est dans les autres secteurs et c'est dans les autres sources aussi.
On a du mal à comprendre que Inga 1 et Inga 2 ne fassent pas l'objet de travaux pour fonctionner mieux,
si,
davantage.
Ça fait des travaux, ça évolue.
Les Japonais sont intéressés pour réparer les turbines. Pourquoi ça n'avance pas plus vite ?
Non, ça évolue. Vous savez, le rythme aujourd'hui par rapport aux opérateurs économiques, par rapport à la population, n'est peut-être pas celui-là qui existe lorsqu'on est en train de faire les travaux. J'ai échangé avec le responsable de la Société Nationale d'Électricité et même à l'époque avec l'Agence de Développement du Projet Inga. Le rythme n'est peut-être pas celui-là parce qu'on a besoin que ça se passe très vite. C'est de la technique. Vous ne pouvez pas aller arranger une turbine comme si vous étiez en train d'arranger les chaussures. Il y a des crues qui arrivent avec l'eau. Il y a des problèmes d'accès, d'ailleurs, avec les vous le savez aussi bien que moi, et tout ça se met en place. Mais on n'est pas dans une inertie, on est dans un développement, peut-être pas avec le rythme qu'il faut.
C'est un sujet qui est lié à l'environnement, évidemment. Le bassin du Congo, le fameux poumon vert de l'Afrique, la planète entière s'en inquiète. Est-ce qu'il faut freiner, selon vous, Antonin Quinzo, l'exploitation industrielle des forêts ? Comment lutter aussi contre la déforestation illégale qui existe ?
Quand on parle de lutte contre l'environnement et quand on parle de la question de l'environnement, je me suis toujours posé la question de savoir de quel côté on se retrouve. La plupart des pays occidentaux sont en recul sur cette question. Quand on regarde après Covid ce qui s'est passé, on voit qu'il y a une décision qui a été reprise d'utiliser des sources qui étaient fermées les années antérieures. Je parle de l'exploitation de charbon. Ça, ça a été mis en place. Mais nous avons une politique.
Chacun doit faire sa part.
Chacun est responsable pour pouvoir rencontrer le besoin de son pays. Ça, c'est un élément que chacun de nous sait. Et nous avons vu ça. Mais nous sommes véritablement engagés sur la protection de l'environnement. Nous sommes engagés sur les questions des investissements responsables, développement durable. Nous sommes un pays solution qui est en train de l'offrir, d'offrir cela au monde. Et nous avons dit
qu'il peut y avoir... Et quoi précisément sur la question des forêts ?
Lorsque vous avez suivi Madame la ministre Eve Bazaïba là-dessus et le président de la République là-dessus, la question de l'environnement, nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir une réforestation lorsqu'on est en train de faire cette production des forêts. La loi, le code forestier est en train de dire vous ne pouvez pas aller au-delà de 30% de ce que vous êtes en train de travailler sur la question de forêt. Et ça engage ça, ça contrôle. Et il y a aujourd'hui une obligation de replanter les arbres derrière. Et
est-ce
ça,
que vous diriez, comme le dit par exemple Denis Sassou Nguesso, que vous devez être, les pays d'Afrique centrale qui ont sur leur territoire ce poumon, doivent être aidés pour protéger ces espaces naturels, ces tourbières, ces forêts qui captent le CO2
Puisque c'est un enjeu mondial.
Vous savez, lorsque on est conscient de ce que l'on représente pour le monde entier, on ne s'appartient plus. Ça, c'est un élément que chacun de nous, et même nous en sommes conscients. Est-ce qu'on devrait être aidé ? Le terme a été utilisé par un président de la République que je respecte et que je vais d'ailleurs respecter. Mais nous devons, nous, avoir un regard différent. Parce qu'en fait, l'enjeu sur les questions climatiques est en train de se jouer dans le bassin du Congo. Donc, vous ne pouvez plus regarder l'Afrique centrale comme si c'était un espace anodin. C'est là que se joue la question des réserves de CO2. Et donc, les efforts doivent être concentrés pour avoir les différents pays qui s'unissent en termes d'efforts afin que nous puissions véritablement jouer le rôle de protection et de lutte contre les dérèglements climatiques.
Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Antonin Kinzo, vous êtes aussi le président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Est-ce que la francophonie économique fait le poids aujourd'hui face aux anglophones? Je crois que vous étiez récemment au Gabon, qui est entré récemment dans le Commonwealth.
Vous savez, la stratégie d'aller au Gabon, pour nous et pour moi d'ailleurs, était à un triple niveau. Premièrement, je donne un message en disant que c'est possible de pouvoir faire renaître la francophonie économique. Deuxième message, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Et nous avons fait venir de 17 pays les différents responsables de PME en leur disant que vous pouvez être demain les leaders qui peuvent changer l'espace francophone. Et le troisième objectif derrière, c'est de pouvoir reconnecter les différents pays dans la francophonie. Est-ce que nous sommes en train de pouvoir jouer un rôle en contrepoids par rapport aux pays anglophones ? Je dis que nous sommes sur cette voie-là. Je n'ai qu'un mandat limité, mais je suis en train de poser les bases pour faire en sorte que dans les années à venir, il puisse y avoir cet élément qui change. Lorsque vous regardez la francophonie, il y a énormément de démographie. Qu'on le veuille ou pas, même les pays anglophones vont se dire on n'a pas beaucoup de choix que de travailler avec eux. Maintenant, la question c'est, est-ce que la langue va constituer une barrière ? Quelle est la langue qui va le plus se mettre en place ? Je suis quand même étonné que dans les pays francophones, notamment le pays dans lequel on se trouve, que dans certaines communications, on préfère l'anglais au français.
Vous le déplorez ?
Je suis étonné.
Merci à vous, Antonin Kinzo.
Merci Bruno, merci Julien.
D'être passé dans les studios de RFI, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, l'ANAPI, et par ailleurs le président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements.
Merci.
Et cet entretien, vous pouvez le retrouver dès maintenant en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, comme nos autres invités de l'économie, Magaï Gueye, Kako Nouboubko, Maïs Mouissi et bien d'autres personnalités à découvrir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Dans un instant, les dernières nouvelles du cacao avec l'interview du patron du conseil Café Cacao, Yves Brahima Koné.
Mokili, c'était Kokoko, collectif de Kinshasa, sur RFI. La Côte d'Ivoire et ses nombreux ressortissants et ressortissantes qui vivent de la production du cacao, la grande richesse nationale, mais confrontés à plusieurs défis existentiels. La préservation des forêts et la question des revenus pour l'ensemble de la filière, y compris les petits producteurs. Des questions évoquées récemment lors de la conférence mondiale du cacao qui s'est tenue à Bruxelles. Conférence ouverte par la reine Mathilde de Belgique.
Lutter contre la pauvreté des petits producteurs de cacao. Mieux les rémunérer grâce à des prix justes. Mieux distribuer la valeur ajoutée tout au long de la filière menant du cacao au chocolat sont des thèmes qui me semblent très pertinents pour cette conférence mondiale du cacao. Car ils rencontrent de nombreux objectifs du développement durable auxquels tous les États ont souscrit dans le cadre des Nations Unies. La Belgique a toujours fait preuve d'un grand intérêt à l'égard de toutes les questions liées à la filière du chocolat. Il était donc naturel que vous décidiez de vous réunir à Bruxelles pour discuter de la durabilité de la filière du cacao et du sort de millions de petits producteurs.
Une juste rémunération pour les millions de petits producteurs, demande la reine de Belgique, mais ça ne peut être que le fruit d'âpres négociations avec les géants de la filière, les intermédiaires, les transformateurs, les distributeurs, avec en toile de fond la question de la lutte contre la déforestation exigée désormais par une loi européenne. Que disent les représentants de la filière cacao ? Claire Fage, du service économie de RFI, a rencontré Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil Café Cacao.
Nous rentrons dans un processus qui est relativement complexe. En Europe, on édicte des lois, mais parfois qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Il semble que ce soit les exportateurs, les opérateurs qui seront responsables de la question de la traçabilité. Je ne vois pas, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comment les opérateurs peuvent être responsables de la traçabilité. Ils ne sont pas propriétaires des producteurs. Ce sont des planteurs de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a défini une traçabilité nationale. Donc moi, je pense qu'il faudra qu'on se fasse confiance. Nous avons des données que nous avons communiquées. Tout le monde a nos données, l'Union européenne a les données de la Côte d'Ivoire. Quand je parle des données de la Côte d'Ivoire, je veux parler du recensement, de la géolocalisation des superficies sur lesquelles on fait du cacao. L'Union européenne à Abidjan, la délégation, à ces données. Par conséquent, la responsabilité des opérateurs qui viennent avec le produit sur l'Europe, je ne vois pas comment, sauf à puiser dans nos données qu'on leur a données. C'est la seule voie que je vois. Pour ce qui concerne le prix, nous devons réfléchir à la façon de mieux rémunérer et prendre en compte les nouvelles responsabilités, notamment le coût de la traçabilité. C'est une donnée nouvelle et c'est un impératif qu'on prenne en compte dans le prix au producteur. Quand je parle de prix au producteur, il y a le planteur et il y a l'organe de régulation, c'est-à-dire le représentant de la Côte d'Ivoire, puisque c'est nous qui avons supporté jusque-là, pour l'État de Côte d'Ivoire, tout ce qui a comme coût de mise en place de la traçabilité.
Donc le conseil du café cacao?
C'est le conseil du café cacao qui a mis en place et qui a supporté tous les coûts de la traçabilité. D'une manière ou d'une autre, il faudra que quelqu'un paye, sinon on doit continuer dans le temps à produire du cacao. Il faut que quelqu'un supporte.
Et le producteur, il sera rémunéré de quelle façon supplémentaire? Comment est-ce qu'il aura un petit peu plus pour être encouragé à produire dans des conditions de plus en plus difficiles, de plus en plus exigeantes, sans déforester?
Pour le moment, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de culture de cacao dans les aires géographiques déjà déterminées depuis 2020. Mais il faut continuer à le rémunérer. Vous me dites comment? Nous avons distribué les cartes. Nous sommes vers la fin de la distribution des cartes de producteurs aux planteurs. Il y a plusieurs possibilités. Je vois deux grandes possibilités. Soit au moment de la fixation du prix de campagne, on fixe une prime qui est répercutée directement sur le prix au producteur. Soit on constitue un fonds que nous payons en fin de campagne ou en milieu de campagne à chaque producteur directement sur sa carte. Puisque nous avons fait en sorte que sur cette carte, on puisse faire des paiements directs à chaque planteur.
Et ce serait de quel ordre? Ce serait proportionnel au cours? Ça serait complémentaire au cours quand il baisse? Comment est-ce que vous voyez le système? Cette Mais prime, elle serait indexée
sur
quoi?
S'il y a une prime, elle doit venir en compléter le prix du marché. Voilà.
Et vous avez un ordre d'idée?
Nous n'avons pas fini. Nous sommes en train de travailler là-dessus.
Et vous êtes confiant?
Avons-nous le choix? Nous n'avons pas le choix. Nous devons être prêts pour le 1er janvier 2025. Je pense que nous serons prêts.
Vous disiez qu'il y avait eu des difficultés à payer le différentiel de revenus décent. Donc, ça fera un coût supplémentaire pour les opérateurs. Est-ce qu'ils paieront les deux?
Ils peuvent payer, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de bonne foi. Ils savent très bien qu'ils peuvent payer.
Cette prime, elle serait fixe ou elle serait indexée sur un autre prix?
Mais la prime apparaît au moment où elle est identifiée comme un coût. Peut-être qu'il y aura des variations, mais annuellement, on pourra fixer, connaître le coût exact pour l'année.
Qu'est-ce que vous avez proposé aux opérateurs comme type d'échelle de coût?
Pour le moment, on n'en a pas parlé. Mais nous allons ouvrir des discussions avec les opérateurs dans les prochaines semaines.
Le directeur du Conseil Café Cacao, principale organisation de la filière, Yves Brahima Koné, au micro de Claire Fage. Sur ces problématiques, retrouvez sur notre site les chroniques Afrique Économie et Chronique des matières premières, en compagnie également de Marie-Pierre Olfan. Voilà, il est temps de vous laisser pour le journal sur RFI. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, un dirigeant d'envergure sur le continent. D'ici là, échangeons sur les réseaux sociaux, sur Facebook, RFI Echo. Merci à notre réalisateur Guillaume Munier. Bonne journée, bonne soirée et portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.